Heinz Wissmann, on se retrouve donc pour la partie bonus de cet entretien. J'aimerais bien qu'on reprenne un petit peu le point central sur lequel vous avez insisté tout à l'heure, à savoir ce lien très net entre la dette et la culpabilité. Vous nous avez dit que le mot allemand, il y avait un même mot en allemand pour dire les deux termes. Vous avez aussi parlé d'une sorte de péché originel que la dette représenterait aujourd'hui ou qui aurait pris la place du péché originel. Comment se fait ce nœud-là et est-ce que c'est proprement une manière chrétienne de considérer la question?
Il faut faire un tout petit peu d'histoire. Donc, avec les évangiles, la promesse d'effacer la dette irrémédiable, que le péché originel, laisse quand même les gens avec leur petite dette, les péchés véniels, comme on dit. Or, les institutions ecclésiastiques ont depuis toujours concentré leur effort sur la gestion des petites dettes. Le purgatoire a été, au Moyen-Âge, inventé pour qu'on puisse rembourser par quelques années au feu les petites dettes, à condition qu'on soit chrétien et qu'on ait donc adhéré à la promesse du Christ d'effacer la grande dette. Seuls ceux qui ne croyaient pas à la promesse du Christ, tombaient dans le péché mortel et étaient donc damnés. Alors, la chose très intéressante, ça va à travers les indulgences, par exemple, qu'on pouvait acheter. Il y a tout un trafic et donc il y a une économie de la dette spirituelle ou religieuse pendant des siècles. Et c'est seulement après la Révolution française qu'apparaît l'idée que la dette ne doit pas être définie à partir de cette origine absolue ou de la promesse du Christ effacée, la dette doit être analysée comme un devoir. Intéressant le mot aussi, non ? Le devoir, les avoirs, etc. Il y a tout un vocabulaire que la banque va ensuite reprendre. Eh bien, la dette va être la dette qui lie les êtres humains les uns aux autres et ce qu'on doit à l'autre. Selon les théoriciens donc, du début du XIXe siècle, les Saint-Simoniens, mais aussi des auteurs allemands, mais ce qu'on doit aux autres, c'est le respect de leur dignité ou de leur intégrité. Du coup, disparaît évidemment à l'horizon la définition religieuse, mais on entre dans une sorte de quasi-religion, qui est la religion du respect de la dignité humaine. Et à partir de là, on peut considérer qu'il y a une sorte de sécularisation de la notion de dette. Mais à y regarder de près, la dette garde toujours cette espèce d'héritage d'une obligation qui engage l'être humain tout entier. Donc il n'y a en ce sens que de véritable, il n'y a pas de véritable libération.
Du péché originel.
Du péché originel, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et ça réapparaît aujourd'hui dans les discours des uns et des autres. Il y a, dans les pays de la contre-réforme, pour là aussi faire l'histoire, dans les pays de la contre-réforme, la gestion des péchés véniels a été au cœur de la campagne contre les protestants qui considéraient qu'il fallait s'occuper des péchés originels et se demander si on était vraiment croyant ou pas. Ça, c'est l'idée de Luther, que seule la foi en la promesse du Christ peut réellement nous sauver. Les péchés véniels, on les laissait de côté et on disait, on n'a qu'à s'appliquer à être impeccable au sens étymologique du terme, sans péché. C'est ça qui explique la ponctualité des Allemands, leur prétention de dire vrai, de ne pas tomber dans les petits travers. Or, les contre-réformateurs, les jésuites en tête, ont soutenu que c'était de l'orgueil et qu'il fallait au contraire admettre que nous sommes tous des petits pécheurs. Et pour gérer la petite dette, eh bien, on a des modalités de remboursement. Ce sont par exemple, la confession fait partie de cela, avec l'aveu du péché, les bonnes résolutions pour l'avenir, et puis une semaine après, on peut recommencer. Or, ce n'est pas un hasard si actuellement, dans le débat qui agitent les instances européennes, s'affrontent les pays de la réforme et de la contre-réforme. Les pays de la réforme sont beaucoup plus tournés vers la question du péché originel. Enfin, ça, c'est historique. Tandis que les pays de la contre-réforme ont appris, et c'est une civilisation même, à gérer le péché véniel de façon à ce qu'il devienne presque un jeu social, un lien social, le pardon réciproque.
Et alors, finalement, si on poursuit le parallèle, quelle serait la faute avec la dette ? Parce que le fait d'être endetté, c'est une situation qui, a priori, ne justifie pas un jugement moral. Comment est-ce qu'aujourd'hui, dans le discours sur la dette, on retrouve cette dimension morale ?
Non, mais il y a une dimension tout à fait irrationnelle dans la manière dont on traite la dette globalement. Il faudrait vraiment s'interroger sur la fonction économique de tel type de dette par rapport à un autre type de dette. Si on était vraiment délivré de ce fantasme religieux qui assimile la dette à la faute à la culpabilité, eh bien, on pourrait éventuellement sortir de cette espèce de double bind, de cette contrainte qui fait que nous sommes à la fois soucieux de faire démarrer, redémarrer, de développer la croissance et tenter de réduire la dette. Je veux dire, ça, c'est pas possible.
Et on a le sentiment aussi qu'effectivement, dans cette volonté de s'attaquer à la dette, ce sont par rapport à la question des générations qui suivent, se posent. C'est-à-dire que la culpabilité, elle n'est pas tant d'être endetté que d'être responsable éventuellement d'un endettement ou d'un sacrifice des générations à venir.
On condamne les générations à venir. Ouais. C'est-à-dire qu'on leur lègue une dette qui est tellement lourde à porter qu'on ne peut qu'être coupable de les avoir ainsi maltraités. Il y a ça, mais je pense que sur le plan psychologique, le fait de devoir quelque chose qui ne soit pas basé sur une réciprocité de devoir est difficile à supporter.
Si je
vous dois de la reconnaissance, je peux espérer en retour que vous me reconnaissiez. Alors que si je vous ai emprunté de l'argent, et le problème, c'est que vous me tenez à travers cela et vous me faites mauvaise conscience. Et c'est ce rapport-là que la dette favorise, mais dans des discours qui enveloppent évidemment l'existence de populations entières. Ce n'est pas individuel.
Vous dites mauvaise conscience. On peut concevoir que, effectivement, quand on est endetté, on a une obligation de rembourser sa dette et que malgré tout, ça puisse peser sur la conscience. Comment, si on se débarrassait de ce lien avec le péché originel, est-ce qu'on pourrait aborder la dette d'une autre façon qui nous ferait sortir du problème en partie ?
Encore une fois, je ne suis pas spécialiste sur l'économie.
Sur le plan de la manière dont on considère la chose.
Voilà. Et alors, si on parle de l'exemple grec, par exemple, les Grecs étaient des consommateurs, mais sans mauvaise conscience. Et c'est pour ça que les Allemands leur tombent dessus. Parce qu'il faut qu'ils aient mauvaise conscience de faire ce qu'ils font. Et encore maintenant, je veux dire, ils sont impénitents. Il ne faut pas croire que les Grecs soient assagis. Les Grecs ont un comportement, alors je mets des guillemets, païen. Païen, au sens donc de cette tradition.
Païen, c'est-à-dire pas sensible au péché originel.
Voilà. Ouais. Ils vivent dans un monde qui, d'ailleurs, quand on va en Grèce, on trouve ça extraordinairement agréable. Cet univers dans lequel on n'est pas sous la rigueur d'une exigence qui fait que tout est écrasé. On vit au jour le jour, on vit avec les moyens du bord, on est dans une espèce de présent plutôt heureux.
Est-ce que l'orthodoxie a à voir là-dedans ou...
Je pense que l'orthodoxie, ça nous entraîne encore dans un autre discours, parce que la faute ou la culpabilité dans la tradition orthodoxe est traitée tout à fait différemment, parce que pour les orthodoxes, ce qui est un tremplin de sainteté, c'est le crime. C'est-à-dire la faute est vécue comme quelque chose qui peut permettre une sanctification. D'ailleurs, le titre en traduction du roman de Dostoïevski, Crime et châtiment, est très intéressant parce que le crime de Salvador, même Staline, qui était un immense criminel, mais il était d'une certaine manière un agent de la sanctification. C'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre, nous, on ne peut pas comprendre que les Russes puissent encore vouer à Staline une sorte de culte. nous, Hitler, par exemple, on ne peut que se détourner avec horreur. Vous voyez, ce genre de choses sont très difficiles à analyser, mais il me semble que l'héritage religieux persiste, même lorsqu'il a été sécularisé, et que nous devons absolument essayer de comprendre à quoi correspondent chaque fois les réactions que suscitent chez nous les phénomènes de dette. Et encore une fois, le vocabulaire de la banque, le vocabulaire de la bourse, quand on regarde de près, c'est désormais entièrement le vocabulaire emprunté à la théologie chrétienne. Par exemple, le crédit, c'est croire, le créancier, le défaut de paiement, puis il y a la foi aussi. D'ailleurs,
la confiance caisse, des marchés.
La confiance, la caisse des dépôts et consignations, quand elle a été créée en 1815-16, s'appelait la foi publique. Pourquoi la foi publique ? C'est que le roi promettait d'être de bonne foi et de ne pas toucher aux avoirs individuels de ceux qui avaient fait fortune dans le commerce ou ailleurs. Non, on est au cœur d'une problématique qui aujourd'hui ne peut être, je dirais, résolue que si on pousse l'analyse suffisamment loin et qu'on ne reste pas à la surface macroéconomique des phénomènes, parce que dans ce cas, toutes les réactions qui sont héritées de notre civilisation et de notre tradition culturelle, toutes ces réactions sont complètement déphasées, décalées par rapport au calcul économique.
Alors, ce qui est étonnant avec ce que vous dites, Arne Gijsman, c'est qu'on a le sentiment que cet univers religieux fondamental des grandes positions de l'homme par rapport au sens de la vie, de son existence, continue d'être extrêmement prégnante dans le monde aujourd'hui, bien que la religion semble avoir un peu passé de mode. Vous dites que ce sont simplement des questions essentielles que l'homme se pose et finalement il conserve une manière d'y répondre en se raccrochant à des choses qui ont été avant dans leur famille ou qui ont été dans le passé, qui ont été reprises dans le passé. Et qu'il n'y a pas de théologie moderne, de réinvention de la théologie aujourd'hui.
Inversant le propos, c'est-à-dire si la religion a rencontré un assentiment auprès des populations lorsqu'elle parlait de péché originel, c'est que le sentiment du péché devait déjà exister. C'est pas la religion qui l'a inventé. Et donc la religion est une manière de gérer, de traiter et peut-être de faire surmonter ce sentiment profond qui habite tout être humain d'être coupable. Cette culpabilité est une forme d'angoisse liée sans doute au fait que la mort est inexorable. Il y a peut-être quelque chose de très très profond que la religion articule et permet d'ailleurs de traiter. Et c'est donc pas que c'est la religion qui a inventé le péché originel, la question de la dette, et que nous pouvons nous débarrasser de la religion pour vivre heureux dans un monde sécularisé. Ça, c'est trop simple. C'est l'inverse. La religion était peut-être une des manières les plus adéquates de traiter un sentiment profond qui nous habite et qui, aujourd'hui, grâce à la structure économique des sociétés en croissance continue, eh bien, éclate au grand jour comme un problème, comme quelque chose de très, très difficile à aborder avec des catégories adéquates.
On n'a pas parlé du monothéisme du judaïsme, notamment. On a le sentiment que là, la question du péché est vue autrement, malgré tout, puisque parmi les commentaires, même le péché dit originel ne serait pas forcément considéré comme une faute, et c'est la vie qui a été permise, l'histoire qui a été ouverte. Est-ce qu'il n'y a pas là peut-être une vision à la fois religieuse et en même temps un petit peu distancée par rapport à cette question de culpabilité ?
Enfin, il y a une différence radicale entre la conception chrétienne selon laquelle Dieu s'est fait homme, donc il y a une immanence du divin. C'est pour ça que le Christ peut promettre qu'il va effacer les péchés des humains. Dans le judaïsme, comme Dieu est transcendant, radicalement transcendant, on n'a pas cette histoire de péché originel, de l'effacement du péché. L'espérance messianique est d'un tout autre type. Et ce que les hommes peuvent faire pour mériter, non pas d'être sauvés, parce qu'il n'y a pas cette perspective du mérite, eh bien, c'est qu'ils se conforment simplement au règles qui ont été prescrites. Ce que Dieu leur a donné, ce n'est pas la promesse de les sauver, mais il leur a ordonné de faire un certain nombre de choses. Et donc, ils se creusent la tête sans arrêt si ils ont bien compris l'ordre que Dieu leur a donné, et ça les occupe pleinement. Et ça n'a rien à voir avec cette vision chrétienne du péché originel effacé par le Christ, qui est ensuite assimilé à une dette que l'espèce humaine a contractée à l'égard d'elle-même. Parce que, en fait, c'est la continuité du même problème qu'on a chez les révolutionnaires, les post-révolutionnaires, les gens sécularisés. Et d'ailleurs, le mot sécularisation dit bien que quelque chose qui a été n'a pas été abandonné, parce qu'il a simplement été transformé.
Puisqu'on brasse large, Heinz Wissmann, et pour terminer, est-ce qu'on peut s'interroger sur la manière dont, par exemple, en Asie, en Chine, on a ce rapport avec la dette et la culpabilité? Est-ce que vous avez des lumières là-dessus aussi?
Il faut avoir des connaissances plus approfondies que les miennes. Non, c'est qu'on peut constater que le sentiment de faute tel que nous l'éprouvons, parce qu'on est acculturé de façon, je crois, les parents inculquent ça aux enfants. Ça n'existe pas sous cette forme dans les autres traditions, les grandes civilisations. Ça n'existe ni en Inde, ni en Chine. En Chine, je connais un tout petit peu. Les Chinois, tout le monde dit qu'ils sont pragmatiques. C'est-à-dire, ce qui compte, ce n'est pas tellement les sentiments, ce qu'on peut...
C'est que le chat attrape la souris, comme disait Deng Xiaoping.
Mais oui, on fait, et puis on verra de suite. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, on corrige. C'est comme le jeu de Go. Oui, moi je dis toujours, jouer aux échecs, c'est quelque chose de tout à fait particulier, parce qu'on peut déplacer des figures sur plusieurs cases. Jeu de Go, non. On va de case en case et on étouffe peu à peu l'adversaire ou on encercle l'adversaire. C'est une toute autre stratégie de vie. Tandis que les échecs, j'avais des étudiants chinois qui me disaient toujours, les échecs, c'est absolument incompréhensible, parce que comment peut-on sauter des étapes? Et ils me disaient, et vous, vous ne vous rendez pas compte, vous utilisez des métaphores pour évoquer des réalités. Et nous, on n'arrive pas à suivre, parce qu'une métaphore, c'est comme un saut de cheval sur un échiquier. Et c'est très, image, très intéressant de se demander, les stratégies économiques, culturelles, etc., correspondent probablement à des formes de religiosité qui avaient pris en charge le besoin des êtres humains d'être guidés dans les affres de leur existence.
Finalement, Heinz Wissmann, pour conclure, est-ce que ce qui nous manque aujourd'hui pour... justement sortir de cette situation bloquée, c'est pas d'accepter, non pas ce qui se passait avant, mais qu'il y ait un rapport entre la religion, le phénomène religieux et les choses de ce monde, d'arriver à le penser tout en étant distant aussi.
Voilà.
Sinon on est aveugle.
Oui. Mais il faut sortir de ce qui, moi j'appelle ça souvent le dernier évangile, qui est prêché donc du haut de la chaire, que sont les bourses. C'est quand même exactement comme au Moyen-Âge, les prêtres qui prêchaient la pénitence, etc. Ben, aujourd'hui, c'est les nouvelles de la bourse. Et ça finit par devenir une sorte de succès d'année de religion. Puisque les gens pensent que c'est le réel et que ça, leur avenir, leur destin se joue là. Or, il faudrait quand même avoir une religion un peu plus fine que celle-là. Et là, il y a tout un travail, soit de remémoration, de réactivation d'un héritage que nous avons peut-être délaissé trop vite, ou encore, il y a de la créativité aussi dans l'humanité. Il n'est pas exclu que nous puissions nous doter, je ne dis pas d'une religion, mais de perception, de conduite, de certitude religieuse qui ne se réduisent pas au fonctionnement d'un système économique.
Voilà. Bah écoutez, on plante ce petit drapeau pour l'an prochain, pour 2015, en espérant que la réflexion se poursuivra et naîtra pour nous aider à sortir de cette crise. Merci beaucoup, Heinz Wissmann, d'avoir accepté notre invitation.